lui, va se substituer au peuple. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'était dans le plan de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont trouvé la réponse dans cette prophétie d'Ésaïe sur le serviteur sacrificiel. C'est, me semble-t-il, vraiment là, très clairement, la relation. Ils ont d'abord vécu dans Ésaïe 53, les premiers temps après la résurrection de Jésus et l'envoi du Saint-Esprit. Alors, comment les autorités juives qui refusent de reconnaître en Jésus l'accomplissement de ces choses peuvent-ils lire ce passage sans voir la coïncidence? C'est très intéressant. Dans le Targum, qui est une paraphrase en araméen du texte et qui représente une lecture ancienne, peut-être quand même postérieure au temps de Jésus. Les targumistes ont bien compris qu'il s'agissait du Messie. Et ils expliquent, parce que c'est délayé, si vous voulez, le passage est délayé. J'ai avec moi le texte en traduction anglaise du Targum, si vous voulez. Je pourrais vous en donner des extraits. Ils ont bien vu que c'est le Messie, mais alors, d'une manière absolument artificielle, dans Ésaïe 53, ils n'attribuent au Messie que les paroles de gloire, de victoire. Et toutes les paroles d'humiliation, et finalement de mort, ils les attribuent à ses ennemis. Ils glissent dans leur paraphrase les mots « les ennemis », alors que ce n'est pas du tout dans l'original. Oui. Alors c'est une façon de nouveau de faire qui est très significative, qui montre qu'ils ne peuvent pas prendre le texte tel qu'il est. Mais alors les docteurs du judaïsme, plus tard, qui ne peuvent plus recourir à un procédé aussi grossier en quelque sorte, comment font-ils? En gros, ils interprètent Ésaïe 53, du peuple d'Israël tout entier, qui souffre pour le bien de toutes les nations. C'est une interprétation collective où le peuple d'Israël est considéré comme le serviteur de Dieu qui souffre, et cela, finalement, est au bénéfice de l'humanité entière. C'est probablement cette idée qui a d'ailleurs influencé Karl Marx, qui a transféré au prolétariat ce que cette interprétation attribue au peuple juif, avec toutes ses souffrances au cours de l'histoire. Mais il y a des objections absolument majeures. Il y a l'objection que, dans la série des passages qui viennent avant, le serviteur a une mission auprès d'Israël, pour rassembler Israël. Donc il n'est pas Israël, il se distingue d'Israël. Ce n'est pas une simple personnification. Et puis dans le texte même, il est dit, c'est à cause du péché de mon peuple que le coup mortel lui a été porté. Du péché de mon peuple a mis, en hébreu. Que font les juifs? Eh bien, ils ont quelque chose de très très commode. Ils ont une théorie selon laquelle il y a une lettre perdue dans la Torah. Dans le Tanakh, une lettre perdue, et ayant cette idée qui ne tire de nulle part, ils disent ben c'est là. Après ce ami, il y a un M en plus. Il ne faut pas lire ami, mais amim, et ça devient les peuples à cause du péché des peuples. Là où le prophète dit mon peuple. Et du coup, ça implique que le serviteur est un individu qui œuvre aussi pour Israël. Là, ça devient possible d'interpréter d'Israël pour les peuples. Vous voyez le tour de passe-passe. Dans la Bible du Rabbinat, chez Chouraki, vous avez ce tour de passe-passe. Dans la Bible du Rabbinat, il y a juste une note. Ami égale amim. Il ne dit rien de plus. Voilà. D'une manière tout à fait arbitraire, vous avez ce signe égal qui est placé dans la note. Dans la Septante, je signale, parce que je l'ai vérifié, dans la Septante, donc cette version juive faite avant Jésus, c'est bien mon peuple. L'ensemble du passage n'est pas entièrement traduit de manière très, très littérale, mais cet élément-là s'y trouve, mon peuple. Voyez, mais le judaïsme, voyez, pour pouvoir garder ce passage sans reconnaître à quel point c'est la vie de Jésus-Christ et sa mort qui correspondent, est obligé de chercher des subterfuges plus ou moins artificiels. Troisième ligne, là je vais aller encore plus vite, la ligne du Fils de l'homme, l'annonce du Fils de l'homme. Dans la vision centrale du livre de Daniel, vous le savez, les grands empires qui vont se succéder dans le monde connu d'alors, le monde méditerranéen et du Moyen-Orient, sont représentés par quatre bêtes, par le lion, par l'ours, par le léopard, et par une bête innommable, un monstre. Et face à ces quatre empires, qui sont soumis au jugement du Père éternel, l'Ancien des jours, une figure humaine, quelqu'un comme un fils d'homme, qui s'avance sur les nuées du ciel, et qui reçoit de la part de Dieu le Père, qui reçoit l'empire universel et éternel. Et dans l'explication, il est dit que cet empire est remis au Saint du Très-Haut, au peuple du Saint, des Saints du Très-Haut, qui sont persécutés en particulier par la quatrième bête, par ces quatre empires. Alors certains commentateurs pensent que le quelqu'un comme un fils d'homme n'est qu'une personnification, n'est qu'une figure symbolique pour le peuple des saints du Très-Haut. Donc que ce ne serait pas un individu particulier. Mais moi je suis convaincu par les arguments contraires de nombre d'autres commentateurs. D'abord, le peuple des saints du Très-Haut, c'est d'abord donc Israël, il n'est jamais présenté ailleurs sans tête. Il y a toujours quelqu'un à sa tête. Et d'où les quatre empires bestiaux, il nous a dit ce sont quatre rois. Donc il y a chaque fois un roi qui représente de manière plus excellente l'ensemble du royaume en cause. Pour le lion, c'est très très clairement Nebuchadnezzar, comme vous pouvez l'appeler, parce qu'il y a des éléments de son histoire rapportés au chapitre 4 qui sont spécifiquement évoqués. Donc, il paraît tout à fait normal de supposer que le quelqu'un comme un fils d'homme correspond au roi de ce royaume des saints du Très-Haut. Comme il y a des rois pour chacun des quatre empires terrestres opposés à cet empire céleste. Je pense qu'il y en trouve d'autres arguments dans la comparaison avec le chapitre 10, alors je prends le temps d'entrer dans les détails, où là il s'agit à coup sûr d'un individu céleste, et il y a plusieurs traits qui sont conformes. Et en tout cas, dans le judaïsme, entre les testaments, le judaïsme d'avant la venue de Jésus-Christ, en particulier dans les écrits dits Énochiens d'Énoch, le fils de l'homme, parce qu'on a abrégé quelqu'un comme un fils d'homme en fils de l'homme, le fils de l'homme est un personnage de type messianique. Il est celui qu'on attend et qui, venant du ciel, va assurer la libération des fidèles du Seigneur opprimés sur la terre. Voyez, ce fils de l'homme est un personnage individuel. Là, vous savez que le Seigneur Jésus n'a pas voulu être appelé Christ. Il n'a pas refusé quand l'application du titre, quand par exemple Pierre l'a prononcé, ou même quand le grand prêtre l'a dit. Jésus a dit, tu l'as dit. Jésus n'a pas refusé d'être reconnu comme le Messie, mais en même temps, il ne l'a jamais mis lui-même en avant. Il savait sans doute trop quelles idées, quelles images ses contemporains associaient à l'idée de Messie, l'idée d'un royaume terrestre et d'une victoire militaire sur les ennemis, et donc Jésus a préféré ne pas employer. Il a choisi, pour parler de lui-même, comme titre et quasiment comme surnom, précisément le Fils de l'homme. Vous le savez, c'est l'expression qu'il emploie sans cesse, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, pour parler de lui-même, par référence à cette vision de Daniel. Et d'ailleurs, lorsqu'il a comparu devant le Sanhédrin, devant le grand prêtre, il a cité deux passages pour vraiment expliquer qui il était. Le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, et Daniel 7, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Jésus a cité les deux passages qui, pour lui, indiquaient le plus clairement et le plus contrairement aux idées courantes dans le judaïsme de son temps, qui il était. Donc nous avons une ligne là qui est très forte et qui met en valeur, d'une autre façon que Zainov, qui met en valeur l'origine céleste et le caractère céleste de sa royauté, avec la solidarité entre lui et le peuple des saints du Très-Haut, persécuté sur la terre. Voyez, ces plus petits de ses frères dont il prend en main la cause avec lesquelles il se fait un. Voilà la troisième grande ligne d'annonce prophétique de Jésus-Christ. Ces trois lignes, je pense qu'il y a des indices dans l'Ancien Testament qu'elles convergent et qu'il s'agit en fait du même que les trois figures annoncent. Il y a des traits royaux dans les passages du serviteur. Il va finir par triompher comme un vainqueur, partager le butin. Et il est comparé au rejeton exactement comme, c'est un autre mot, mais c'est la même image qu'au chapitre 11, le Messie de David sortant de la souche. Vous voyez ? Donc, il y a des indices que c'est le même, que le serviteur et le Messie sont le même homme. Et d'ailleurs, Zacharie 3 fait la jonction entre le titre pour le Messie de germe, qui avait été employé par Jérémie pour le Messie, et puis mon serviteur le germe. Et de même, les arguments que je vous ai donnés il y a un instant à propos du Fils de l'homme suggèrent que c'est le Messie à la tête du peuple. C'est le Messie qu'on attend. Et pourtant, le judaïsme n'a pas compris. Et c'est les attentes dans le judaïsme ont été des attentes séparées. À Qumran, on attendait deux messies, un messie roi, un messie prêtre. On attendait le prophète séparément, le prophète qui pouvait être le nouveau Moïse. Ils n'avaient pas compris, voyez, que ces lignes convergeaient. Et ce qu'a fait Jésus, ça a été d'interpréter ces trois lignes de telle sorte qu'elles se rejoignaient et de l'enseigner ainsi et de le vivre, de l'interpréter de cette manière et de réaliser ce qui était annoncé dans sa conduite délibérée et puis suprêmement dans sa mort et dans sa résurrection. C'est de cette façon que les lignes de l'annonce prophétique du Christ trouvent leur aboutissement en lui, avec une puissance de conviction qui ressort de la parfaite harmonie entre les textes interprétés globalement et les événements qui sont rapportés par des témoins fiables de sa vie, de sa mort et de sa victoire sur la mort. Voilà les données principales. Je vous suis reconnaissant d'avoir patienté jusqu'à ce point. Et s'il y a quelques questions supplémentaires, puisque j'ai apporté des Bibles, ça me faisait un peu lourd dans ma sacoche, je suis prêt à m'en servir pour donner plus de détails si vous voulez. Oui, Madame Natura. Si, je défends pour ma part tout à fait l'interprétation qu'on peut dire messianique, l'interprétation qui vise Jésus et sa victoire, de la parole qu'on appelle très bien le protévangile, l'évangile primordial, hein, protos veut dire premier en grec, prot évangile veut dire le premier, la première expression de l'évangile. Dans la parole de jugement que le Seigneur prononce après le péché de l'homme et de la femme et à l'instigation du serpent, Dieu annonce qu'il mettra inimitié entre le serpent et la femme, entre la descendance de l'un et la descendance de l'autre, et il annonce pour cette descendance de la femme qu'elle écrasera la tête du serpent tout en étant elle-même blessée. En fait, c'est le même verbe, écraser, en retour, au talon. À mon avis, il y a un jeu de mots aussi sur le mot talon, parce que le mot c'est ekev, et le même mot avec juste un changement de voyelle, mais les voyelles n'étaient même pas écrites dans le texte, veut dire en retour, c'est l'idée de réciprocité. Je crois que cette victoire finale sur le serpent qui représente le diable, l'instigateur de tout le mal, cette annonce est vraiment la bonne nouvelle déjà, et que c'est bien en Jésus que cela s'est réalisé. Donc je le crois, mais je n'en ai pas parlé pour deux raisons. Je n'en ai pas parlé parce que c'est un élément qui est quand même relativement isolé. C'est pas une des grandes lignes qu'on voit courir tout au long de l'Ancien Testament, du Tanakh, tous ne sont pas prêts. C'est quand même une prophétie qui est encore très 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 voilée. Donc tous ne sont pas prêts à recevoir cette preuve de Jésus très facilement. Donc ça a été ma première raison pour n'en pas parler. La deuxième a été le manque de temps, parce que j'avais quand même prévu d'en faire une mention juste frôlée, en disant que le Fils de l'homme de Daniel 7, c'est l'homme tel que Dieu l'a voulu, face aux bêtes que sont les empires humains, ces empires dont l'homme est si fier. En fait, ce sont des bêtes, et féroces. Et l'homme, selon le vœu de Dieu, c'est lui, le nouvel Adam. Adam, en choisissant contre Dieu, se ravale à la manière de la bête, oui. Et l'homme devient inhumain, féroce, comme une bête. Voilà ce que le péché produit dans l'humanité. Mais le nouvel Adam, que Jésus nous présente, l'humanité telle que Dieu la veut. Et le Fils de l'homme, c'est le nouvel Adam. Et cela, voyez, nous renvoie au premier chapitre de la Genèse, et donc aussi à ce verset que vous aviez en tête. Je peux signaler qu'il y a au moins un auteur, qui est professeur à l'Institut catholique, André Feuillet, qui habitait d'ailleurs rue Georgette Agut, hein, tout à côté, maintenant il est décédé, mais qui estimait que une parole dont je n'ai pas parlé non plus, en Michée 5, sur celui qui doit naître à Bethléem, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de Olam. Certaines versions traduisent au jour de l'éternité, mais ça peut désigner la très haute antiquité. Alors certains y ont vu une mention de l'origine céleste, éternelle, du Messie, mais d'autres, Feuillet, y voient une référence à Genèse 3. Alors, son origine remonte à cette promesse de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. C'était son interprétation, en tout cas. Oui, Jacques.
La compréhension juive, il n'y a pas la notion de l'incarnation.
Non.
Le Messie qu'ils imaginent, qu'ils attendent, est un homme parmi les autres, extraordinaire. Il a une stature qui dépasse celle de tous les autres, mais il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'être divin.
Oui.
Mais celui qui les attend, le Messie qui les attend, j'ai même personnage. Comment est-ce possible?
Bon, alors, plusieurs choses à dire en réponse à cette intervention. La première peut-être, c'est que le judaïsme d'aujourd'hui est extrêmement divers, et que ce n'est seulement que certains rameaux qui attendent encore un messie individuel personnel, qu'une bonne partie du judaïsme réinterprète dans un sens collectif, comme un âge de fraternité, de justice, de paix sur la terre, mais non pas par un personnage défini particulier. Je ne dis pas que cette espérance soit complètement éliminée, mais elle est, je crois, minoritaire aujourd'hui. C'est le premier point. Deuxième point à mentionner, il y a eu des gens qui ont prétendu être le Messie, en particulier au XVIIe siècle, je ne me rappelle plus le nom maintenant, mais j'ai lu à ce propos, et ça a contribué d'ailleurs à l'abandon de l'interprétation individuelle de la messianité par beaucoup. Il y a eu de faux messies qui se sont prétendus le messie dans le judaïsme, du sein du judaïsme. Il y en a eu un en particulier qui a attiré un bon nombre après lui, je crois que c'est au XVIIe siècle, mais qui a fini sous la torture des autorités musulmanes par abjurer. Ce qui fait qu'il a déconsidéré tout son mouvement. Donc il faut savoir que ça a existé dans le judaïsme. Troisième remarque, qui touche plus précisément le point de ta question, il y a eu, et moi j'y vois, même une œuvre de Dieu qui peut préparer la conversion nombreuse que j'attends parmi les Israélites, il y a eu un certain rapprochement avec le christianisme. Alors que le Talmud dénonce Jésus, je crois qu'on est bien obligé de reconnaître que c'est Jésus qui est visé, c'est court, hein, mais comme un magicien, un sorcier, hérétique, et donc plein de mépris pour Jésus, il y a pas mal de docteurs, de penseurs du judaïsme qui sont prêts à reconnaître en lui un authentique prophète d'Israël, que l'esprit des prophètes habitait. Ils sont prêts à avoir une vision positive de lui, ce qui est une nouveauté. Alors, c'est pas le Messie, hein, mais c'est au moins un prophète. Alors, à ce moment-là, l'apôtre Paul devient le bouc émissaire de l'opposition au christianisme, assez souvent. Jésus est réhabilité, mais alors l'apôtre Paul est le traître, comme il était déjà accusé de l'être de son temps, par l'ouverture aux non-juifs des bienfaits de l'Alliance. Mais donc il y a une réhabilitation du personnage de Jésus, et le professeur Sigwald de l'université de Strasbourg m'a une fois assuré, je ne l'ai pas lu moi-même directement, qu'un de ces penseurs du judaïsme contemporain, Ben Chorin, allait jusqu'à considérer comme possible, en tout cas, la résurrection de Jésus. Prêt à admettre que ce pouvait être un fait historique. Ce qui quand même représente un pas considérable. Alors c'est dans ce rapprochement, cette ouverture qui peut-être prépare une véritable conversion, une reconnaissance de Jésus pour ce qu'il est, que peut se situer ce que tu évoquais. Certains peut-être sont prêts à dire que celui que nous attendons pour sa deuxième venue, où il manifestera ce qu'il a déjà acquis par sa première venue, et leur attente peuvent coïncider. Peut-être certains sont-ils prêts à dire ça à la faveur d'un tel rapprochement.
Et le fait que le sacrifice perpétuel ait cessé, et que cela correspond au sacrifice accompli par notre Seigneur Jésus-Christ dans les années qui ont suivi très rapidement, comment Israël s'explique cela et qu'est-ce qu'il construit, comment ce peuple dont toute la piété a été centrée pendant des siècles sur le sacrifice sanglant, peut-il aujourd'hui vivre sans sacrifice et avoir à côté de lui le peuple chrétien que Dieu a rassemblé, qui lui est centré sur le sacrifice du Christ avec l'affirmation que c'est une part pour tout qui s'est opérée en sacrifice?
Alors je crois que ce que je vais dire vaut pour une bonne part en tout cas du judaïsme contemporain. Je ne peux pas certifier que ce soit tous ces rameaux, toutes ces composantes. J'ai été très vivement frappé à la lecture du livre sur le judaïsme du grand rabbin Epstein, de constater que toute cette part du système des sacrifices passait presque à l'as. Ne compte pratiquement plus. Je pense qu'on peut dire que le judaïsme, mais déjà du Moyen-Âge et jusqu'à au temps moderne, finalement ne s'intéresse plus du tout au sens du sacrifice. C'est pratiquement passé sous silence comme un élément quasiment anecdotique d'une première phase du judaïsme qui ne compte plus vraiment aujourd'hui. C'est très très frappant pour nous. Pour nous, cette part du sacrifice dans le Tanakh est énorme. Nous sommes très impressionnés et nous en voyons le sens. Alors nous valorisons. Et puis, un compte rendu du judaïsme par une autorité comme celle d'Epstein, pratiquement n'en fait rien. Et le judaïsme est essentiellement une religion d'éthique, mais d'éthique enracinée, d'éthique charnellement gagée. Je crois que c'est comme ça qu'elle se comprend, avec une tradition des pères, une identité communautaire à sauvegarder, et comme message, une façon de vivre dans le monde comme création de Dieu. Alors, c'est donc pas une éthique de pur principe, c'est lié à la conviction du monde comme création. Et une création d'un Seigneur généreux qui veut que nous jouissions de sa création. Donc ça, c'est une composante importante du judaïsme. Mais le sacrifice, c'est l'étude de la Torah qui remplace. Et sans doute, ça a commencé quand même avant le Nouveau Testament. Ça a commencé seulement, mais c'est ce qui a permis la transition quand le sacrifice a été interrompu, le temple détruit. Ne sont rentrés après l'exil qu'une fraction des Juifs, et un très très grand nombre sont restés en diaspora, où ils n'avaient pas de temple, pas de sacrifice. C'est dans les synagogues que se pratiquait le judaïsme réel. Alors certes, ils faisaient le voyage, le pèlerinage de Jérusalem au moins une fois par an, l'an prochain à Jérusalem, et là il y avait un sacrifice, mais c'était quand même, c'était pas tous d'abord, ils ne pouvaient pas tous matériellement, et ce n'était pas le quotidien de leur judaïsme, qui était beaucoup trop éloigné géographiquement pour qu'il y ait importance du sacrifice. Alors ce qui remplaçait, c'était l'étude de la loi. Les traditions du judaïsme jusqu'à nos jours, le plus rigoriste et le plus intense, sont des traditions d'études. Vous avez des hommes qui passent toute leur vie pratiquement, la femme gagne assez pour que subsiste le foyer, et l'homme parmi ces orthodoxes de certains quartiers de Jérusalem, mais ailleurs aussi, c'était le cas dans les villages juifs de l'Europe de l'Est, les hommes passent pratiquement tout leur temps à étudier la Torah et les commentaires, tout le Talmud, etc. Voilà l'image, en tout cas, que je me fais sur la base des lectures jusqu'à ce jour.
Ce qui me frappe, c'est que sur les trois grandes lignes que vous avez dessinées, les deux premières se réalisent, disons, dans l'unité. La ligne royale, on en voit par exemple pleinement, c'est dans la royauté très, très simple, du fils de David qui naît à Bethléem, etc. De même, le fils de l'homme, disons, on n'en voit pas encore non plus la plénitude, mais on voit Jésus qui qui est là comme un fils d'homme dans l'humilité, et la lumière de ce thème se fait beaucoup plus au sein du thème de la croix, dans la deuxième ligne, là les signes sont en train de la croix.
Oui. Tout à fait. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais commenté sur l'accomplissement en deux stades, en deux étapes. Je pense que c'est une structure fondamentale que l'Écriture nous enseigne, qui est clairement établie dans l'Ancien Testament, mais qui est déjà dans certaines prophéties de l'Ancien, en fait. Je pense à des passages d'Ézéchiel, aussi Zacharie, que ce qui est promis va se réaliser en deux étapes qui correspondent en fait aux deux venues de Jésus. La première venue de l'accomplissement dans l'humilité et la seconde venue dans la gloire qui est celle de l'achèvement et de la manifestation de tout ce qui a été acquis. C'est une réaction juive très, très, très facile dans la situation où nous nous trouvons. Alors il ne faut pas dire que c'est simplement la prophétie de la souffrance qui s'accomplit. D'après le Nouveau Testament, c'est déjà la prophétie du royaume. Le royaume, tout pouvoir donné au Fils de l'homme, le royaume qui est déjà établi avec puissance, mais dans les cœurs, d'une manière qui reste cachée. Donc, tous les miracles sont des preuves de la royauté de Jésus et ont un caractère de gloire. Et nous avons déjà une participation à la gloire. Donc, il ne faut pas schématiser en disant la gloire est à 100% à venir et il n'y a que l'humilité dans le temps présent. La gloire est mêlée à l'humiliation de la première venue et de ce qui suit. Mais il est clair que la grande manifestation de gloire, et tout œil le verra, cela est encore à venir. Et bien sûr, ceux qui donc s'attachent à ces aspects de manifestation glorieuse pour tout œil dans les prophéties de l'Ancien Testament peuvent dire que c'est pas accompli. En un sens, ça c'est exact, que cette dimension-là n'est pas encore accomplie et nous sommes encore dans l'espérance. Et je crois que là, on doit le reconnaître. J'avais encore... Non, je ne sais plus ce que je voulais dire en plus, mais c'est bien.
Et dans l'apocalyptique juive, il y a une attente d'un royaume terrestre seulement, ou bien y a-t-il l'attente d'autres choses, et quand Jésus dit ça des Grecs, le péril du ciel, le fils de l'homme, ils sont choqués, c'est donc qu'il y a une attente
je pense que le Sanhédrin ne comptait pas beaucoup de juifs de tendance apocalyptique. Les courants apocalyptiques, représentés par la littérature énochienne, qui avaient de l'influence dans la population, et en particulier sur les Esséniens, sur le courant essénien, cette tendance était jugée hérétique par les Sadducéens et les pharisiens. Je me rappelle la thèse, elle me paraît exagérée, mais de Jean Hérine qui enseignait il y a quelques dizaines d'années à Strasbourg, pour lui, donc Jésus, par les deux citations qu'il fait devant le Sanhédrin, en particulier celle de Daniel, en quelque sorte prend parti pour ce courant apocalyptique, et donc se place comme hérétique pour le Sanhédrin qui est formé de Sadducéens et de Pharisiens, mais où il n'y a pas des gens de cette autre tendance. Alors en ce qui concerne les Pharisiens, je crois qu'on peut dire que leur attente est d'un paradis très terrestre, disons d'un règne messianique très terrestre. En ce qui concerne les apocalypticiens, c'est plus difficile à cerner. Comme il y a chez eux un très grand contraste entre le monde présent, pécheur vu comme sous la tyrannie du mal, et puis le royaume de Dieu, le contraste est très grand, ça peut donner lieu à une version céleste du royaume. Mais, vous savez, leur langage n'est pas non plus très facile à décoder. Là aussi, il y a contraste, c'est pas du Nostradamus quand même, mais comme œuvre littéraire, c'est terriblement inférieur à ce que l'on a dans les pages de la Bible. J'utilise pour ma part le volume qui contient tous ces écrits en traduction française, la bibliothèque de la Pléiade. La Pléiade, sous le nom la Bible, c'est un peu trompeur, oui, à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais entre les deux, les écrits intertestamentaires. Ils appellent ça la Bible, mais en fait, c'est des ouvrages qui n'ont pas été considérés comme canoniques par qui que ce soit, jamais, ni les catholiques, ni les protestants. Mais ils ont mis ça dans l'ensemble des volumes appelés la Bible. Et puis, ils ont maintenant rajouté un quatrième, que j'ai aussi, et je peux m'en servir, sur les écrits apocryphes, après le Nouveau Testament. Les écrits, donc, de légendes, d'inventions, qui ont couru dans le christianisme du deuxième siècle, autour de ce christianisme. Donc, vous avez quatre volumes maintenant, qui sont très bien présentés. Alors c'est commode pour trouver les textes de l'aile apocalyptique du judaïsme, au premier siècle par exemple.
Voilà, merci beaucoup, nous avons eu de bonnes choses bien denses. Et des lignes bien claires aussi qui peuvent nous conduire encore plus loin. Merci beaucoup pour ce travail aussi approfondi, fouillé, précis. Je propose que nous puissions encore, si vous le souhaitez, passer un peu de temps ensemble pour ceux qui ont...